le texte dans le quantité de vrai, je propose de lire quelques autres dans ces mêmes quantiques de vrai. Psaume 127. Quantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est en vain que vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleur. Ainsi, il donne le sommeil à son bien-aimé. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit du ventre est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Bienheureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis dans la porte. Un peu plus loin encore, le psaume 133, je propose de le relire, 133 et 134. Quantique des degrés de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron qui descendait sur le bord de ses vêtements. Comme la rosée d'Hermon qui descend sur le montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et le psaume 134, qui est aussi un cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous les serviteurs de l'Éternel qui vous tenez durant les nuits dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains dans le lieu saint et bénissez l'Éternel, que l'Éternel qui a fait les cieux et la terre te bénisse de Sion. Hier, on avait vu donc que ces cantiques de degrés, c'est un cantique de degrés, traduisaient les sentiments de cœur et d'âme et d'esprit du résidu qui revenait à Jérusalem parce qu'il avait obtenu la liberté d'y aller, l'ennemi avait été détruit. Si on prend comme certains frères, soit le résidu de Babylone qui remonte à Jérusalem avec les Zorobabel pour reconstruire la maison de Dieu, ou que l'on prenne le résidu qui montera à Jérusalem après la destruction de l'Antichrist, de toute façon les sentiments sont les mêmes. Il y a dans le cœur de ces résidus, on l'a souligné hier, un désir de voir Jérusalem. Ils ont gardé au cœur Jérusalem. Il place au-dessus de la première de mes joies, le psaume 137. Voilà ce que, quel était l'état de cœur pour Jérusalem. Aussi bien, comme nous avons vu hier le 122, cet homme du résidu peut dire, je me suis réjoui quand il m'en dit, allons à la maison des Éternels. Nos pieds se tiendront dans tes portes, ô Jérusalem. Alors voilà, ils sont devant eux et le cœur est tourné vers Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville que l'Éternel avait choisie pour y faire habiter son nom. Et c'est là qu'on devait servir l'Éternel. C'est là que se trouvait la maison de Dieu. On a vu hier comment le résidu voyait la maison de Dieu comme Dieu la voyait. C'est-à-dire une ville Jérusalem, une ville bien mise ensemble, où se trouvent les trônes de jugement de la maison de David, les trônes de la maison de David, la supplication du résidu pour Jérusalem, que la paix soit en toi, que la prospérité dans tes palais. Il peut dire que la paix soit dans tes murs, à cause de mes frères et mes compagnons, je dirais que la paix soit en toi. Voilà, le désir du résidu. Il voit cette maison, cette ville que l'Éternel a choisie comme unie, bien unie ensemble. L'unité, ce qui est souligné, c'est l'unité. Et puis aussi comme étant en paix à l'intérieur. En réalité, elle est détruite. Soit, quand Zorobabel remonte de Babylone à Jérusalem, Jérusalem est rasée, la maison de Dieu est détruite. Enfin, les pierres sont dispersées aux quatre coins des rues. Dans les temps à venir et dans les domaines, on trouve ça dans Jérémie, je crois, les pierres de Jérusalem seront à nouveau dispersées aux coins des rues, n'est-ce pas, détruites. Et pourtant, c'est la ville que l'Éternel a choisie, et on ne peut pas, pour Israël, j'entends, n'est-ce pas, pour Israël, ils ne peuvent pas célébrer le culte à l'Éternel comme il convient, offrir les holocaustes, sacrifices de prospérité, les sacrifices de bâtons, les sacrifices pour le péché, ne peuvent pas l'offrir ailleurs qu'à Jérusalem. Dieu a dit, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Eh bien, c'est là qu'il faut rejoindre, rencontrer l'Éternel, c'est là qu'Israël doit rencontrer l'Éternel. Dans les temps à venir, nous le savons, lorsque le Seigneur lui-même aura établi le règne, alors à Jérusalem, il y aura le temple que l'on trouve décrit dans le prophète Ézéchiel, alors il y aura le service à nouveau dans ce temple, l'espace ce sera à Jérusalem, pas ailleurs. Eh bien, voilà, et nous avons fait le parallèle aisé à faire avec l'assemblée de Dieu, laquelle il s'est acquise par le sang de son propre Fils. L'assemblée de Dieu qui est un témoignage sur la terre, qui est la maison de Dieu en esprit sur la terre, et qui est le corps de Christ sur la terre, dont il est la tête glorifiée. L'assemblée de Dieu qui est composée de pierres vivantes, pas des pierres mortes, des pierres vivantes, nous dit Pierre, l'apôtre Pierre. Ces pierres vivantes, ce sont les membres du corps de Christ, c'est-à-dire tous les croyants, qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont cru la parole de la vérité, et l'évangile de leur salut, des croyants qui sont sûrs de leur salut parce qu'ils ont cru que Jésus était mort pour leur péché, ressuscité pour leur justification. Alors voilà, les croyants qui sont scellés d'esprit, par là, ils sont scellés d'esprit, le Saint-Esprit est là en eux, comme marque de leur appartenance à Dieu, comme marque de leur, comme sceau de leur foi en la vérité qui leur a été révélée par la parole de Dieu. Cela sont membres du corps de Christ. Cela constitue cette assemblée de Dieu qui, dans les premiers temps, comme nous le voyons dans les actes, était visible en certains lieux. À Jérusalem, 3000 hommes, 5000 hommes ensuite, réunis un cœur et une âme en un seul lieu, persévérant dans la doctrine des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain, tous ensemble, tous un cœur et une âme, n'est-ce pas, cette expression est remarquable. Dans après, l'évangile a été prêché dans l'Empire, n'est-ce pas, dans les pays grecs, et l'apôtre, alors, peut parler d'assemblée locale, une assemblée à Corinthe, l'assemblée à Éphèse, l'assemblée ici et là, l'assemblée à Philippe. Il y avait un peu partout l'assemblée de Dieu manifestée par des assemblées locales, des croyants qui se réunissaient. Et nous avons souligné hier les principes du rassemblement qui sont les seuls principes qui permettent de se réunir sur le terrain de l'unité du corps. Le seul, considéré comme seul membre du corps, les croyants, c'est l'esprit, c'est-à-dire ayant la certitude de leur salut, manifestant qu'ils sont des nouveaux, mais manifestant qu'ils ont cette pensée d'esprit en eux-mêmes, n'est-ce pas, cette vie nouvelle en eux-mêmes par l'esprit. Et puis, ces croyants-là se réunissent. On a un lieu, il faut un lieu sur la terre, nous avons besoin d'un lieu pour les réunir. Les Israélites devaient trois fois par an se rendre à Jérusalem, à la Pâque, à la Pentecôte, à la fête des tabernacles, et tous les mâles en Israël devaient se rendre à Jérusalem. Eh bien, les croyants maintenant sont appelés à se rendre en un lieu où se trouve le Seigneur. Jérusalem, c'était le lieu où le nom de l'Éternel était invoqué, où l'Éternel avait promis sa présence, là, derrière le voile. L'arche de là, l'Éternel était là derrière le voile, l'Éternel était là, il parlait avec son peuple de là. Et bien, nous avons maintenant un lieu, c'est la personne du Seigneur. Il a promis sa présence aux deux ou trois assemblées à son nom, et lorsque deux ou trois frères sont assemblés à son nom, le Seigneur est là au milieu d'eux. Une présence particulière, spéciale pour ce rassemblement. Donc le Seigneur est avec nous, partout où nous allons, hein, que nous dormions, que nous soyons réveillés, que nous allions à notre travail, et que nous soyons chez nous, le Seigneur est toujours avec nous. Nous pouvons bien toujours invoquer le Seigneur, alors c'est certain. Mais il y a une promesse spéciale pour les deux ou trois assemblés à son nom, et le Seigneur, fidèle à sa promesse, se trouve là, précisément, au milieu de ce rassemblement. Et puis nous avons vu aussi qu'il fallait à ce rassemblement, quand les hommes sont ensemble, il leur faut en quelque sorte une règle pour que cette assemblée ne soit pas en désordre. Il faut une règle, il faut une autorité qui régisse la vie de cette assemblée. L'autorité, c'est l'Écriture, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre autorité possible pour les croyants que la parole de Dieu. Dieu parle, nous obéissons. Voilà. Quand le Seigneur enlèvera l'assemblée à sa rencontre, quand il va venir sur la nuit, que les morts en Christ ressusciteront premièrement et que nous les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur en l'air. Nous trouvons ces principes, nous trouvons la voie de commandement. C'est le Seigneur qui vient. Il ne vient pas juste sur la terre, il vient sur la nuit. Le Seigneur, à la voix de commandement, les voix enclées sur elle, premièrement, puis nous les vivants sommes transformés et enlevés à sa vente. Là, il n'y aura plus, il n'y a plus de catholiques, de protestants ou d'autres. Là, il y a les croyants. Il y a les croyants enlevés à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur se présente à lui-même, son assemblée, sans tache ni ligne, ni rien de semblable. Tout ce qui était du sol, de la terre, tout ce qui faisait notre misère et notre faiblesse sur la terre, tout cela a disparu. Nous sommes semblables au Seigneur, nous le voyons tel qu'il est, car nous lui serons faits semblables. Ça, ce sera la gloire pour nous. Et c'est l'avenir dans un instant. Le Seigneur a dit, je viens bientôt, n'est-ce pas? Et donc, voilà ce que le Seigneur veut, et il faudrait voir aussi sur la terre, c'est les siens rassemblés avec ces mêmes principes. Pas dans la perfection, certes, nous ne sommes pas dans la perfection. Nous sommes nés nouveaux. Mais il y a encore la vieille nature qui est en nous. Nous avons bien, nous marchons bien par l'esprit, nous avons reçu l'esprit, c'est un fait. La chair est encore en nous. Enfin, alors la perfection n'est pas encore de nos jours, elle n'est pas de cette terre, la perfection. Mais dans un instant, le Seigneur va venir. Alors tout ce qui est de la terre, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'ancienne nature, tout ça disparaîtra et nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, je dis que la parole de Dieu, n'est-ce pas, parce que c'est à la voix de commandement, à la voix du Seigneur, que nous partirons à sa rencontre. Alors, la parole de Dieu, c'est l'autorité. L'autorité qui va conduire l'assemblée. Et le directeur, car il faut un directeur dans un rassemblement. Quand on n'a pas su, quand on a perdu de vue qu'il y avait un directeur que Dieu avait donné, alors on s'est choisi des chefs, on les a mis en soi. Comme le peuple en bas de Sinaï. Il avait perdu de vue Moïse. Moïse, il y a 40 jours qu'il était là-haut, et ce Moïse, on sait où il est passé, c'est ce qu'il veut. Alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Aaron fait donc le voleur. Un Dieu qui marche devant nous. Alors, c'était le Dieu d'Égypte, c'était le Dieu du monde. C'était pas quelque chose de nouveau, c'était le Dieu du monde, le monde dans lequel ils avaient vécu. Alors, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Voilà. Eh bien, quand on a perdu de vue dans l'Église, l'assemblée de Dieu, la chrétienté, disons, quand on a perdu de vue qu'il y avait un directeur qui voulait conduire les croyants et les rassemblements des croyants, on s'est fait ainsi des chefs pour être devant. Fais-moi chef. Un chef et puis on va le suivre. C'est ce que Paul déjà dénonçait à Corinthe. Moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Cephas. On s'était déjà donné des ordres du chef. À Corinthe, du temps d'apôtre. Et pas les chefs qui cherchaient à tirer les disciples après eux. On ne peut pas accuser ni Paul, ni Cephas, ni Apollos d'avoir cherché à tirer les disciples après eux, n'est-ce pas? Mais ce sont les disciples, eux, qui voulaient quelqu'un que l'on voit, qui voulaient quelqu'un que l'on puisse entendre, que l'on puisse toucher, n'est-ce pas? Quelqu'un comme eux, qui soit là devant eux et qui marche. Voilà ce qu'est les disciples. Ça n'a pas changé, l'apôtre Paul l'a lancé. Dans sa dernière entrevue avec tous les anciens d'Éphèse, il disait, je sais qu'il n'y a pas dans le départ, il viendra les roues ravissants, alors cela vient de dehors et il disperse le troupeau. Mais il se les voit d'autres, ou même des hommes de doctrine perverse pour attirer les disciples après eux. Voilà, des hommes qui chercheront à avoir des disciples derrière eux et qui formeront des groupes particuliers. Et ça a été la dispersion, ça a été la division, la dispersion des croyants, des pierres vivantes qui devaient manifester cette assemblée de Dieu, et les voici dispersés. Et pourtant, il y a un directeur. Le directeur, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur l'avait promis dans l'évangile de Jean, il avait dit qu'il enverrait l'Esprit de la promesse, il enverrait le Consolateur, et il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et vous le transmettra, n'est-ce pas? Il me glorifiera. Voilà ce que faisait le rôle du Saint-Esprit, envoyé aux croyants. Et par le Saint-Esprit aussi, il pouvait donc rester uni et marcher comme Dieu le désirait. Aussi bien, lorsque le Seigneur quitte ses disciples, au début du livre des Actes, qu'il va monter au ciel, et il leur dit d'attendre. Attendre que la promesse du Père soit accomplie. Vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins, le Saint-Esprit venant sur vous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est le directeur dans l'Assemblée. Nous ne le laissons pas toujours faire, bien sûr. Voilà. Toute la question est là, et toute la question dans la chrétienté, c'est là ce qui a détruit le témoignage de la chrétienté. On n'a pas laissé l'Esprit agir. On s'est pas soumis à la direction du Saint-Esprit ni à la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous instruit de la parole de Dieu et nous fait entrer dans la parole de Dieu. On ne va pas laisser agir. Alors chacun a fait sa propre volonté et on se trouve comme au temps des juges où il n'y avait pas de roi en Israël, où chacun faisait ce qui semblait bon, c'est sûr. Et maintenant chacun fait ce qui semble bon, c'est sûr. On se donne des règlements, des chefs, on se donne des liturgies, on se donne, que sais-je, on a essayé de maintenir le groupe, parce que la communauté, si elle n'a pas de chef, si elle n'a pas d'autorité, elle va se disperser, elle va se dissoudre. Alors que Dieu avait donné tout ce qu'il fallait pour que cette communauté, justement, ne se dissolve pas, puisqu'il y avait une autorité qui est sa parole, et il y avait un directeur qui est le Saint-Esprit. Voilà ce que tu as voulu, et voilà ce que nous n'avons pas su maintenir. Bon, si nos souffrants ont réussi à le faire, et essayer de maintenir la chose, avec bien de la peine d'ailleurs, parce que nous trouvons toujours des obstacles en nous-mêmes, premièrement, qui n'empêche que dans la majorité des cas, les disciples, les membres du corps de Christ sont dispersés, alors au lieu d'être unis ensemble, et manifester cette unité aux yeux du monde. Dans le psaume que nous avons lu, nous voyons qu'il s'agissait de la construction de la maison. Dans le psaume 123, le résidu, voyez la maison comme elle devait être, mais ici, au psaume 127, il a compris que si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qu'il a bâti, c'est qu'il ne travaille pas. Bâtir la maison de Dieu, bâtir l'assemblée. L'apôtre Paul disait, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, car il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ. Alors, il a posé fondement. Il s'habillait, il s'exprimait, il se disait collaborateur de Dieu. Nous sommes collaborateurs de Dieu. Si Dieu, si c'est l'Éternel qui bâtit la maison, néanmoins, il lui faut des ouvriers. Et ces ouvriers, ils doivent faire selon la pensée de Dieu. Si nous rapportions à la construction de cette maison, Salomon, justement, Salomon a construit pour l'Éternel, nous verrions que déjà David avait reçu les plans de la maison et tout le détail de la maison l'avait reçu par l'Esprit de l'Éternel, par écrit. C'est pas David qui a inventé les plans. C'est pas David qui a inventé le détail des ustensiles, des instruments. Il les a reçus de l'Éternel par l'Esprit, par écrit. Nous voyons ça à la fin du livre des Chroniques. Et alors Salomon n'a eu qu'à bâtir justement ce que Dieu avait préparé par David. On ne fait pas ce qu'on veut dans la maison de Dieu. C'est bien le point sensible sur lequel les chrétiens achoppent, nous-mêmes d'ailleurs achoppent. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne bâtit pas comme on veut, on bâtit comme Dieu. On ne remplit pas un service parce qu'on a choisi ce service. On remplit le service que Dieu donne. Les fils d'Aaron ont été sacrificateurs. Et il n'y a que les fils d'Aaron qui pouvaient être sacrificateurs. Et il ne s'agissait pas qu'ils soient autre chose. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ils étaient nés sacrificateurs et ils devaient donc remplir le service de sacrificateurs. Les fils de Lévi, les Lévites, devaient servir les sacrificateurs. Ils étaient occupés au service du temple. Et bien, parce qu'ils étaient Lévites, parce qu'ils étaient nés Lévites, et bien, ils étaient occupés du service du temple. Ils n'avaient pas d'héritage en Israël. Leur héritage, c'était l'Éternel. Ils vivaient du temple. Ils étaient fils de Lévi, alors ils servaient au temple. Les fils de Kehath étaient chantres. Ils n'étaient pas chantres parce qu'ils avaient une belle voix ou parce qu'ils avaient désiré être chantres. Ils étaient chantres parce qu'ils étaient fils de Kehath. Et ça, c'est tout simplement, et tout est comme ça dans l'Écriture, dans la maison de Dieu à Jérusalem. Les uns étaient portiers, et bien, il y avait une place de portier. Fils de tel ou tel était portier. C'était les gâcheux de Gershom, et bien, ils portaient les instruments. Il y a tout était réglé par l'Éternel. Et l'homme n'avait aucune part dans ces choses, sinon celle d'obéissance. L'obéissance, voilà. Eh bien, dans l'Assemblée de Dieu, c'est pareil. C'est dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Qui va dire ça? Qui va donner les dons? Le Saint-Esprit. Nous trouvons ça dans Corinthiens 12, n'est-ce pas? Que c'est l'Esprit qui distribue comme il le veut. Nous avons ce texte dans Corinthiens 12, nous connaissons bien sans doute, mais enfin, disons-le. Il est important de comprendre que ce qui est la direction de Dieu pour une assemblée. Dans la Corinthiens 12, nous voyons au verset 4, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Il y a diversité de services, c'est le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité. Et début, sont énumérées diverses manifestations mystiques. Le verset 11, mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Car de même que le corps est un qui a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Voilà ce que l'Écriture souligne. Notre unité, l'unité dans laquelle nous sommes par le baptême dans le Saint-Esprit. Or, j'ai dit, tous ceux qui ont cru l'évangile du salut, la parole de la vérité, l'évangile de leur salut, ont été reçus le Saint-Esprit, sont scellés du Saint-Esprit. Le sceau, c'est la marque individuelle. Le baptême, c'est la marque collective. Nous sommes plongés, baptisés, vous êtes plongés, nous le savons, plongés dans l'esprit. Abreuvés, c'est l'esprit à l'intérieur de soi. Et c'est vrai pour tous les croyants. Nous avons été baptisés. Ceux qui ont cru, l'évangile du salut, quand je dis croyant, nous sommes obligés de nos jours de préciser ce qui est un croyant, parce que vous rencontrez des tas de gens qui disent, moi, je suis un grand croyant, c'est tout, je ne sais pas. Non, les croyants sont ceux qui ont cru l'évangile de leur salut, ils savent que Jésus est mort pour leur péché, qui est ressuscité pour leur justification. Ils ont cette liberté de s'approcher de Dieu comme des enfants s'approchent de leur père. Voilà les croyants. Ces croyants-là sont scellés d'esprit, ils sont baptisés ensemble du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et ils ont reçu le Saint-Esprit demeurant en eux comme l'onction aussi, une question de l'onction de l'Esprit. Enfin, c'est là le service du Saint-Esprit à l'égard de l'autre. Il n'y a pas à réclamer le Saint-Esprit comme on le fait dans certains milieux, n'est-ce pas? Il n'y a pas à passer des nuits en prière pour avoir le Saint-Esprit. C'est tout à fait illogique puisque Dieu a donné le Saint-Esprit. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit à ceux qui croyaient en lui. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est sur la terre. Une chose que l'on oublie, n'est-ce pas? Il n'était pas avant. C'est pourquoi, dans Jean, au chapitre 7, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, quand il est parlé de l'Esprit, de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croyaient en lui, c'est le Seigneur, qui parle des fleuves d'eau vive, n'est-ce pas? L'Esprit qui allait recevoir ceux qui croyaient en lui, parce que l'Esprit n'était pas encore, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit n'était pas encore. Il existait de toute éternité. L'Esprit est Dieu. Il n'était pas encore sur la terre, mais il était de toute éternité. L'Esprit, nous le voyons au début de la Genèse, l'Esprit de Dieu qui souffle sur la face des hommes. Participe à la création, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est le vrai Dieu, le Dieu unique. Père, Fils, Saint-Esprit, trois personnes dans le Dieu unique. N'oublions pas, ne rejetons pas cette vérité qui est actuellement, nous savons, fort combattue par une secte très active, n'est-ce pas? Mais nous devons rejeter cette secte, n'est-ce pas? Ils veulent imposer l'idée que Jésus n'est pas Dieu, mais une créature. Or, Jésus, fils de Dieu, vrai homme, né du Saint-Esprit, marchant et ayant reçu le Saint-Esprit, lorsqu'au baptême de Jean, il se présente avec le résidu repentant pour recevoir le baptême de repentance, donc le baptême de Jean, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une colombe. C'est pas le feu du jugement. C'est la colombe de paix. En Jésus, il n'y avait rien à reprendre. Il se joint à ceux qui se repentent. Il se joint à ceux qui viennent recevoir le baptême de repentance. Mais lui, il n'avait pas à se repentir. Il n'y avait rien en lui qui puisse être repris. Il était né d'esprit, il avait vécu par l'esprit, et voici que là, à ce baptême, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe et d'une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, le seul homme en qui Dieu ait trouvé son plaisir. » Et puis l'évangile de Luc nous dit que le repentant, le voici parti pour prêcher, il allait dans la puissance de l'esprit. Puissance de l'esprit. Comme un homme, il avait besoin, en quelque sorte, si on peut dire, parce que il est Dieu en étant homme, mais en tant qu'homme, il avait besoin du Saint-Esprit comme puissance pour aller son chemin de lieu en lieu faisant le bien. Et lorsqu'il parle à ses disciples, il dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Donc après que Jésus ait été glorifié, alors il a envoyé ce que la promesse du Père, nous pouvons lire ça dans les Actes, chapitre 2 sans doute, lorsque Pierre en parle à Jérusalem, oui, chapitre 2, au verset 32. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous, nous sommes tous témoins, ayant donc été exalté par la droite de Dieu et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendu. Alors Pierre disait aux Juifs, cet Esprit Saint promis, les Juifs savaient que l'Esprit Saint était promis. Ceux qui n'ont pas cru et ceux qui ne croient toujours pas, c'est que Jésus était celui qui était exalté à la droite du Père. Voilà ce qu'il doit faire. Et voilà ce que les croyants, eux, ont cru. Jésus ressuscité, exalté à la droite du Père. Bien sûr, Jésus envoyait le Saint-Esprit de la promesse. Et le Saint-Esprit se voyait dans l'attitude de ceux qui l'avaient reçu, les disciples. Il parlait des choses magnifiques de Dieu. Parler dans les langues de ceux qui étaient là, qui pouvaient les comprendre, n'est-ce pas? Ils parlaient de façon à se faire comprendre, et non plus seulement dans la langue hébraïque, qui était limitée au peuple d'Israël, mais ils se parlaient dans toutes les langues qui se trouvaient là, il y avait 11, je crois, n'est-ce pas? Ils parlaient dans ces langues-là, manifestant que Dieu voulait parler à tous les hommes sur la terre. Parler de quoi? Des choses magnifiques, des choses merveilleuses de Dieu, n'est-ce pas? C'était la glorification de Dieu dans l'œuvre qu'il avait accomplie par Jésus. Voilà ce que l'on voyait à ce moment-là parmi ces hommes, qui étaient des hommes illettrés, c'est-à-dire sans culture, là, et on les voyait avec hardiesse s'exprimer sur les choses merveilleuses de Dieu. Il y avait eu chez eux manifestation de la présence de l'Esprit. C'est vrai d'ailleurs pour tous les croyants, pour nous tous, ceux qui se convertissent, et bon, peut-être pas à ce même niveau, mais de toute façon, vous avez un homme qui est inintéressé aux choses de Dieu. Quand quelquefois ce n'est pas un homme très opposé aux choses de Dieu, un adversaire du Seigneur, et puis un beau jour le Seigneur l'arrête comme Paul sur le chemin de Damas, frappe cet homme, le retour, et voilà un homme qui va parler des choses merveilleuses de Dieu. C'est par l'Esprit qu'il parle, c'est par l'Esprit qu'il est né de nouveau, c'est par l'Esprit qu'il est, ce que nous appelons converti, une nouvelle nature, et voici, il va parler des choses merveilleuses. Peut-être pas un grand espoir, peut-être pas un langage très habile, mais c'est quand même la marque du chrétien de parler du Seigneur. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Quelqu'un qui ne parlerait jamais du Seigneur, comment pourrait-on dire qu'il est sauvé? Nous ne pouvons pas dire qu'il est sauvé. Bien sûr, il y a aussi ceux qui parlent du Seigneur, mais qui ne croient pas dans leur cœur. Sans doute. Si on l'entend jamais dire, eh bien, on peut bien douter que cette personne soit convertie. Donc, c'était le Saint-Esprit qui permettait de bâtir la maison. Nous sommes éloignés de ce psaume, je reviens au psaume 127. L'Éternel bâtit la maison, donc la maison de Dieu actuelle, l'assemblée par l'Esprit. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde est en vain, et on a le même principe. À savoir que nous ne sommes pas capables de garder la ville. La ville était entourée de murailles, Néhémie avait redressé les murailles, et on était obligé de mettre des portiers. Ah, il y avait des portes, aux murailles, bien sûr, des portes avec des battants. On pouvait fermer les portes. Oui, mais les fermer, on se supposait aussi qu'on pouvait les ouvrir. La muraille interdisait l'entrée du monde à l'intérieur. Enfin, il y avait des choses qui devaient entrer. Il y avait des choses qui ne devaient pas entrer. Et comment distinguer ce qui devait entrer et ce qui ne devait pas entrer? Alors, voilà où il nous faut la direction de l'Esprit pour savoir ce qui doit entrer dans l'Assemblée, ce qui ne doit pas entrer dans l'Assemblée, ce qui doit rester dehors, le monde, ce qui est du monde, tout ce qui est du monde n'est pas du Père. N'est-ce pas? Tout ce qui est du monde n'est pas du Père et il doit rester dehors. Mais le monde, Dieu a tenté du monde. Alors le monde, le mot monde va désigner toute l'organisation de ce monde que nous voyons, toute son activité qui va se terminer un jour en catastrophe. Enfin, voilà le monde, voilà la pensée des hommes qui nous entourent, la pensée des hommes qui pensent que tout ira mieux, demain tout ira mieux, alors que ça va mal en pis, tout ira mieux. Mais cette pensée-là doit rester dehors, et les hommes qui porteraient cette pensée-là doivent rester dehors, et toutes les distractions du monde doivent rester dehors. Mais le monde, Dieu a tenté du monde, les hommes de ce monde. Si l'un d'entre eux a un besoin, si l'un d'entre eux veut entendre la vérité, et si l'un, il faut que la porte soit ouverte. Alors, il faut savoir garder la porte Si l'Éternel te garde la nuit, celui qui garde le veilleur en vain. C'est l'Éternel qui va donner aux veilleurs, aux portiers, si on disait dans les chroniques, nous verrions qu'il y avait des portiers, qui va donner aux portiers, ceux qu'il faut laisser entrer, ceux qu'il ne faut pas laisser entrer. À la fin de Néhémie, nous voyons qu'il y avait des commerçants qui venaient le jour du sabbat. Il ne fallait pas laisser entrer les familles mortes. Laissez dehors. On devait ouvrir les portes seulement quand le soleil était chaud. Il fallait voir clair, voir celui qui allait venir. Il fallait pouvoir, comment dirais-je, considérer que le soleil l'éclaire bien et qu'on voit qu'il marche dans la lumière. Celui qui, comme on laisse entrer, marche dans la lumière. Tant que le soleil n'était pas chaud, il fallait laisser les portes fermées. Et dès que le soleil baissait, dès qu'on voyait plus clair que la nuit arrivait, il fallait fermer les portes. Voilà ce qui nous parle de façon spirituelle, n'est-ce pas, bien sûr. Nous avons à transposer ces choses, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas de la porte qui est là. Nous parlons de la porte spirituelle par laquelle on se joint à l'assemblée. Nous ne pouvons pas admettre n'importe quoi, nous ne pouvons pas laisser entrer n'importe quoi. Et nous devons pourtant laisser entrer tout ce que Dieu veut laisser entrer. Il nous faut la direction de l'esprit pour avoir ce discernement. Le discernement pour l'assemblée, pour le bien de l'assemblée. Et puis, alors le psaume nous parle des efforts que l'on peut faire en tant qu'homme, s'organisant soi-même, un groupe d'hommes qui s'organisent, qui sont des chrétiens peut-être, et qui vont s'organiser eux-mêmes. Alors c'est en vain que le matin, vous couchez tard, vous mangez le pain tout l'heure, c'est en vain. Si ça ne repose pas sur le Seigneur, si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui agit, et on peut faire tous les efforts qu'on veut, on pourra rassembler tout ce qu'on pourra. Ce ne sera pourtant pas l'assemblée de Dieu. Il faut, et alors il dit, ainsi il donne le sommeil à son bien-aimé. Son bien-aimé, le Seigneur. C'est lui qui est bien-aimé. Quel était le caractère du Seigneur, le caractère essentiel en tant qu'homme? Il a, le Seigneur a un caractère tout à fait essentiel. Il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort et à la mort. Il est devenu obéissant. Il était en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à ravir d'être égal à Dieu, mais il a pris la forme d'homme. Et en étant en forme d'homme, né David, il était roi. Eh bien non, il s'est abaissé lui-même. Il est devenu obéissant, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. La mort ignominieuse de la croix, la mort entre deux malfaiteurs, mis au rang des malfaiteurs, eh bien le Seigneur a été obéissant jusque là. Et c'est son caractère essentiel que l'on voit en tant qu'homme sur la terre. Nous sommes appelés à ce même caractère. Aussi le Seigneur, il donne le sommeil à son bien-aimé. Aussi le Seigneur se reposait, il se reposait sur son Dieu. Avec bien sûr, nous voyons Jean-Jacques Gethsémané souffrir, parce qu'il avait devant lui le fait d'être fait péché. Il ne pouvait pas désirer être fait péché. Nous voyons tout au long de son chemin être ému de compassion pour les foules. Mais nous ne voyons pas hésiter sur l'obéissance à son Dieu. Dresse sa face résolument vers Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que les prophètes étaient mis à mort. C'est là qu'il devait accomplir sa mort. Il parle avec Moïse et Élie et la montagne de la Transfiguration. Nous voyons parler de quoi? De sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Accomplir sa mort. Pas un homme ne peut dire cela. Nous n'accomplissons pas. Nous, lorsque l'heure est venue, quand Dieu nous reprend, il doit rien faire pour nous. Rien faire pour l'empêcher, rien faire même pour prolonger nos jours, non? Et prolonger nos jours, si Dieu le veut, nos jours seront prolongés. À moins d'y mettre fin nous-mêmes, ce qui est un crime, ça, nos jours seront prolongés. Nous ne sommes pas maîtres de notre mort. Le Seigneur, lui, il allait accomplir sa mort. Mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'est là la différence, n'est-ce pas, entre le Seigneur Jésus en tant qu'homme et nous-mêmes. Enfin, lui, il accomplissait son service jusqu'à Jérusalem. N'est-ce pas, il allait souffrir de la part des anciens, de la part des chefs, il allait être fouetté, il le savait à l'avance, et il allait être crucifié. Il le savait, et c'était son service, et il accomplissait son service. Devenu obéissant, obéissant jusqu'à la mort. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Cette volonté, c'est que nous soyons sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, faite une fois pour toutes. Et voici donc le caractère essentiel du Seigneur, l'obéissance. Et il se reposait sur son Dieu. Quelle confiance en son Dieu. Voyons dans toutes les épreuves. Donc, par exemple, accepte confiance. Le 12, ça suit le chapitre 11. Et il nous parle des hommes de foi. Le livre 12. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, cette nuée de témoins, ce sont des hommes de foi, il a été question dans le chapitre 11 de plusieurs qui ont été des hommes de foi remarquables. Cette si grande nuée de témoins qui nous entoure, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur la nuée de témoins, non, sur Jésus. Non, pas les nuées de témoins, bon, on en a parlé, pour expliquer, l'apôtre en a parlé, pour expliquer ce qu'était la foi. Il donne des exemples. Abraham, Moïse, etc. Il donne des exemples. Mais quand il nous dit de courir la course, il ne nous dit pas de fixer nos yeux sur Moïse ou Abraham ou David. Fixons nos yeux sur Jésus. Jésus. Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Voilà, le chef et le consommateur. Le chef, c'est celui qui marche devant. Et le consommateur, c'est celui qui achève, celui qui porte, qui consomme la foi, qui l'achève, qui la termine. Donc, en Jésus, nous avons l'homme qui a vécu la foi, ce qu'on peut appeler la foi. En lui, nous la voyons parfaite, la foi. Était-il dit, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, il avait devant lui la joie de glorifier le Père, la joie d'amener plusieurs fils à la gloire. Mais avant la joie, qu'est-ce qu'il y avait? Il a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Et il est assis à la droite du trône de Dieu. Il y avait la croix. Il y avait la croix. Avant la joie de la gloire pour le Père, la joie de pouvoir se présenter au Père en disant, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Avant, il y avait la croix. La croix, n'est-ce pas là? La croix. Et la honte. Dont la honte, il m'a méprisé. La honte, c'était mis au roi des malfaiteurs, n'est-ce pas? Il a épuisé la croix. Mais il a enduré la croix. Enduré. Il a souffert la croix. La croix, c'était l'abandon de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous rappelons souvent ce texte et nous devons le rappeler parce que c'est central. C'est le texte central. C'est à ce moment-là qu'a été fait l'expiation de nos péchés. C'est pas ailleurs. C'est là, à ce moment-là. Pendant ces 3 heures de ténèbres à la fin desquelles le Seigneur a dû crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Saint-Fils de Dieu a été abandonné de Dieu. Il a été abandonné de son Dieu après une vie de parfaite obéissance. Après avoir été approuvé de Dieu, celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Eh bien, le Fils bien-aimé, en qui il a trouvé son plaisir, eh bien, a été abandonné sur la croix. Il y avait autour de lui toute la haine de l'homme. Il se manifestait. Il était là entre deux malfaiteurs. Et Dieu, le ciel était fermé. Les ténèbres étaient descendues en plein midi sur lui. Voilà, seul sur la croix, abandonné de Dieu. Nous disions hier, il n'y a pas un homme qui peut comprendre cette souffrance. Même David, qui a écrit le psaume, n'a jamais été abandonné de Dieu, même dans les pires moments où il était adultère et criminel. Il n'a jamais été abandonné de Dieu. Pas un homme ne pourra dire qu'il a été abandonné de Dieu. Il y a des quantités d'hommes, hélas, qui abandonnent Dieu. Mais de leur côté, ils ne seront la bouche fermée parce que Jésus est venu pour se donner pour tous les pécheurs. Pour tous ces hommes qui vont à la perdition, le sacrifice du Seigneur est valable pour eux si seulement ils l'acceptent, si seulement ils nous entrent, si seulement ils le veulent. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie du Seigneur, alors. Mais nous ne pouvons pas dire que Dieu les a abandonnés. Seul Jésus. Jésus abandonné de Dieu. Voilà la foi. La joie a été au-delà. Il y a pour nous aussi, d'ailleurs, la récompense est l'ancienne. Elle n'est pas immédiate. Nous pouvons très bien vivre une vie extrêmement difficile où il nous faut beaucoup de patience et de persévérance, une vie de foi, une vie de persécution. Bon, dans nos pays, nous avons une tranquillité déjà depuis plusieurs générations assez remarquable de la part de Dieu. Mais nous ne plaignons pas, au contraire, prions pour les autorités, comme il le dit dans l'épître à Timothée, afin que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Mais il peut arriver que nous partagions le sort de nombre de nos frères, de quantité de nos frères qui sont dans les pays communistes, par exemple, et qui sont persécutés à cause de leur foi. Eh bien, la joie est au-devant. La persécution est là, mais il y a la récompense au-delà. Au-delà de cette croix que ceux qui veulent me suivre prennent
sa croix chaque jour, et je suis celui qui veut venir après moi, qui se renonce lui-même, prenne sa croix chaque jour et le suit. Voilà le chemin du chrétien lorsque le Seigneur l'y appelle. Et puis, nous voyons donc, je voulais souligner, que le Seigneur se repose sur son Dieu. Au verset 3, nous avons les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit de ventre est une récompense. Les fils, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont à faire là? Eh bien, les fils, c'est la génération, c'est on engendre une postérité, c'est la postérité. L'Assemblée de Dieu, il faut une postérité, il faut qu'il y ait des nouveaux venus à l'Assemblée de Dieu. Mais qui va donner les nouveaux venus? Est-ce que ce sont nos efforts qui vont donner les nouveaux venus? Non. Pas plus que nous sommes en mesure de faire naître les enfants, pas plus que nous pouvons faire naître les hommes de nouveau. Et quand on est de nouveau, on est de Dieu. Il est dit dans la première de Jean, n'est-ce pas? Ils font bien ce passage, à tous ceux qui ce verset, la première de Jean, pour bien situer que c'est seul le Dieu qui fait naître le nouveau, que nos efforts ne sont pour rien. Chapitre 1er de Jean, verset 11, verset 10, pour faire les oppositions. Il était dans le monde fut fait par lui, et tout le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien, nous pouvons transposer ça dans le domaine spirituel. Tous nos efforts pour faire naître quelqu'un de nouveau, nous allons l'enseigner, nous allons lui donner la parole de Dieu, nous allons l'inviter à des réunions. Oui, mais il ne sera pas de nouveau pour autant. Il peut bien réciter la Bible tout entière, ça ne passe pas par cœur. Il n'est pas né pour autant de nouveau. C'est Dieu qui fait naître de nouveau. Ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faudra l'action de l'esprit sur la conscience et sur le cœur pour que cet homme soit né de nouveau. Nous avons raison de répandre l'Écriture. Nous avons raison, par exemple, d'enseigner nos enfants dans la parole de Dieu. Il n'empêche que nos enfants, nous avons bien été à l'origine pour qu'ils naissent sur la terre en tant que fils d'Adam, mais en tant qu'enfants de Dieu. C'est Dieu qui les fera naître de nouveau. Ce n'est pas nous qui le ferons, n'est-ce pas? Notre responsabilité se limite en quelque sorte à être devant eux les témoins qu'il faut. À ce moment-là, là, notre responsabilité est entière, n'est-ce pas? Est entière. Témoins qu'il faut. Et à ce sens-là, nous aussi, nous participons à la construction de la maison. Être des témoins dans nos maisons, à nous. Être des témoins dans le monde où nous vivons. Des témoins individuels. Peut-être que nos maisons n'ont pas marché comme il faudrait. Pas sans juger personne, parce que la mienne est ainsi, n'est-ce pas? J'ai deux enfants, il y en a une qui, on ne saurait pas dire si elle est convertie. Regardons un peu notre chemin. Est-ce que nous avons enseigné comme il convenait l'Écriture? Sans doute, d'ailleurs. C'est pas là que ça pêche. C'est pas l'enseignement qui pêche parmi nous. Parmi nous, nous savons enseigner, nous donnons l'enseignement selon l'Écriture. Il n'y a pas beaucoup de fausses doctrines qui traînent sans qu'elles soient jugées. Est-ce que l'enseignement est vécu? Alors ça, c'est autre chose, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons vécu cet enseignement devant nos enfants? Est-ce qu'ils ont vu en nous des hommes attachés au Seigneur et se laissant conduire par le Seigneur? Est-ce qu'ils ont vu vraiment que c'était lui, et c'était lui qui était notre secours constant, la puissance qui nous faisait marcher? Est-ce qu'ils ont vu qu'aussi nous étions attachés à l'Assemblée? Est-ce qu'ils ont vu que nous avions la première de nos joies au-dessus, la première de nos joies était Jérusalem, c'est-à-dire l'Assemblée de Dieu? Sans doute l'ont-ils pas vu, puisqu'ils ont trouvé que le monde va tout le temps, n'est-ce pas? Alors, nous avons là à nous repentir et à confesser que nous avons manqué. Nous avons manqué notre part dans la construction de la maison. Je parle pour moi, je ne parle pas sans juger personne, je parle pour moi-même. Il en est ainsi donc pour les enfants, les fils sont un héritage de l'éternel. Ce n'est pas un héritage de l'homme, c'est un héritage de Dieu. Si Dieu veut amener des nouveaux-nés de Dieu, des nouveaux convertis, disons, dans une assemblée, c'est lui qui le fera. Pour nous, nous avons bien sûr à être les témoins qui sont nécessaires pour cela. Et ainsi donc, ayant saisi ce qu'est en quoi Israël peut se confier, car nous voyons hier que dans le résidu dont il est question dans Ésaïe 10, ce que que reproche l'Éternel à son peuple, c'est de s'être confié dans l'ennemi, dans l'Assyrien. Alors, il les fait passer par une épreuve terrible. Et ceux qui sortent purifiés de cette épreuve, ceux qui se tourneront vers celui qu'ils ont percé, alors ceux-là, finalement, auront appris à se confier dans l'Éternel. Car c'est ce que toujours l'Éternel a reproché à son peuple, il ne se confie pas en moi. Il se confie dans les dieux des nations qui sont impuissants, qui sont incapables. Il se confie dans les dieux des nations qui les ont vaincus. Et voilà, ils ne se confient pas en moi. Ils ont délaissé la source des eaux vives. Voilà, n'est-ce pas? Pour se faire des citernes crevées. Ils se font crevasser. Voilà ce que l'Éternel reproche à son peuple. Alors, eh bien, c'est pareil. Nous avons à prendre garde à cela, à cette confiance dans le Seigneur, dans la puissance du Seigneur, qui se manifeste par la puissance du Saint-Esprit dans l'Assemblée. Nous devons préserver cela dans nos cœurs et dans notre vie, la puissance du Saint-Esprit. Et nous arrivons à ce psaume 133 parce que, on travaille bien sûr tout à l'heure dans ce psaume, c'est toute une suite de ce psaume de degré, c'est tout un exercice de cœur et de conscience, mais enfin, les résidus à retrouver, ou tout au moins compris, que la confiance devait être dans l'Éternel et pas ailleurs. Et voici, ils sont revenus dans la maison. Bon, je trouve que 33. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable que les frères aient une mise ensemble. Ils ont compris que c'était cela l'important. Nous, qui n'est pas dit qu'il est bon et qu'il est agréable que les frères habitent ensemble. Non. Il est dit qu'ils habitent unis ensemble. Et c'est pas pareil. On peut habiter ensemble et se faire la guerre constamment. Ça vaut bien, n'est-ce pas, qu'il y a des maisons où c'est constamment la querelle. Donc, si on est ensemble, et quel triste foyer. Il s'agit d'habiter unis ensemble. Eh bien, c'est bon et c'est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est bon pour eux. Et nous savons bien nous-mêmes, n'est-ce pas, quand l'assemblée est en fait, quand nous marchons les uns avec les autres, heureusement, joyeusement, ben, nous sommes heureux, voilà, c'est bon et c'est agréable. Il y a plus que cela. Il y a un témoignage. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descendait sur la barbe d'Aaron qui descendait sur le bord de ce vêtement. L'huile précieuse, nous le savons, c'est l'huile de l'onction ici, parlée du Saint-Esprit à l'avance, symbolisée le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est versé sur la tête d'Aaron, le grand sacrificateur, symbole du Seigneur. Et l'huile descendait sur la tête, sur la barbe d'Aaron, sur ce vêtement, sur le bord de ce vêtement. Au bord de sa robe, il y avait des clochettes et des grenades. Un fruit, une clochette, un fruit, une clochette. Le même nombre de fruits que de clochettes. Il fallait que l'apparent porte cela pour entrer dans le sanctuaire, de façon à ce qu'on l'entende lorsqu'il allait dans le sanctuaire. Alors on entendait, parce qu'il disparaissait derrière le voile pour porter le sang sur le propitiatoire de l'arche, alors on l'entendait, il disparaissait aux yeux de la foule, mais on entendait à Aaron les sonnettes qui le suivaient, on l'entendait. Il n'y avait pas seulement que les sonnettes, il y avait les grenades, il y avait les fruits. Les fruits, on ne les voyait plus, les fruits quand ils réapparaissaient, alors on l'entendait revenir, et on le revoyait à nouveau, on le revoyait avec sa robe et les grenades, tout. Il n'y avait pas seulement eu du bruit, il y avait eu du fruit. Et cela, il nous faut le comprendre, n'est-ce pas? Pas seulement du bruit. Il y a beaucoup de croyants qui font beaucoup de bruit de nos jours. Est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce que le fruit est égal au bruit? Il y avait les clochettes, il y avait les grenades. Une clochette, une grenade, une clochette, une grenade. Le Seigneur parlait, mais il guérissait. Il venait, il faisait des œuvres. Il enseignait d'abord. Partout il allait, il enseignait. Se présente-t-il à l'infirme quelconque, un aveugle, un muet? Il y avait les œuvres. Il y avait l'enseignement, il y avait les œuvres. Les deux à la fois. Pas seulement l'enseignement, mais aussi les œuvres. Les œuvres que nous ne pouvons guère mesurer, qui sont à la mesure de Dieu, et que Dieu apprécie lui-même. Lorsque il va juger les églises de l'Apocalypse, cette église d'Apocalypse, est-ce qu'il dit, en premier lieu, je connais tes œuvres? Je connais tes œuvres. C'est, pas tant de reproches, bien sûr, il y en a quelques-unes, il reprend Tatir, il reprend l'Espagne-Odyssée, il reprend Sardes, sans doute, mais il dit d'abord, je connais tes œuvres. Les œuvres sont la manifestation de la puissance de l'Esprit agissant dans cette assemblée. Et les œuvres. Voilà. Il n'y a pas que parce que nous sommes sauvés par pure grâce, par la foi, et non par les œuvres d'aucune manière, nous croyons pas pourtant que les œuvres soient sans importance aux yeux de Dieu. Parce que cette foi est produite des œuvres. Lorsque nous lisons le chapitre 11 des Hébreux, dans certains milieux où on parle beaucoup des œuvres, catholiques par exemple, le mettent en opposition avec l'épître de Jacques. Or, quelle opposition y a-t-il? Jacques parle des œuvres ou de la foi. Et comment Paul démontre-t-il la foi? Il la démontre par les œuvres. Rab, la prostituée, qu'est-ce que vous étiez? Comment peut-on voir que Rab, la prostituée, avec la foi? Elle a reçu des espions, ils ont envoyé, c'est tout, n'est-ce pas? Voilà. Comment peut-on voir qu'Abraham avait la foi? Eh bien, il a, Dieu l'a appelé, l'Éternel l'a appelé, et Abraham a suivi, il a entendu, il a quitté son pays, sa parenté, et il est allé dans le pays que l'Éternel lui montrait. C'est la foi, ils ont une confiance en Dieu, c'est la foi, mais cette confiance, elle se manifeste dans la vie. S'il n'y a pas de manifestation de cette confiance, on peut bien toujours dire, je crois, oui, moi je suis un grand croyant, mais où est la foi? Et si on n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. La foi obéit à la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. Et Jacques, bon ben Jacques prend les choses dans un autre sens, n'est-ce pas? Lisons dans Jacques que ce texte. Laissons bien sûr, mais enfin, lisons-le dans Jacques, n'est-ce pas? Dans le chapitre 2, verset 16, non, verset 14. Mais ben, quel profit a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et mangent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit a-t-il? C'est-à-dire, vous dites des paroles-là inutiles. Vous dites, bon, allez, rassasiez-vous, puis il n'y a rien. Alors c'est inutile. Alors, quelqu'un qui dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas d'œuvre, c'est inutile. Ce sont des paroles inutiles. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois que Dieu est un, il fait bien, les démons aussi croient et il fait ça. Et veux-tu savoir où l'on nous vint que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'Écriture a été accomplie qui dit « Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice. Il a été appelé ami de Dieu. » Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et pareillement, Rahab aussi, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, ayant reçu les messagers et les ayant mis dehors par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Jacques ne dit jamais que la foi, que le salut est par les œuvres. Mais il parle d'une foi qui se voit, d'une foi agissante, la foi d'Abraham, la foi d'Abraham qui, Dieu réclame son fils, son unique, celui que tu aimes. Et bien Abraham n'hésite pas, il prend son fils et il va l'offrir à l'Éternel. Voilà la foi. Et Abraham est justifié par la foi. Abraham a entendu dire que l'Éternel avait donné le pays à Israël. Elle reçoit les espions et lui renvoie aussi, elle met le cordon d'écarlate pour protéger sa maison de ce sang. Voilà la foi. Rab aurait pu rester là, le pays est donné à l'Éternel. Quand c'est bien dommage, on va tous mourir, oui, bien sûr, et rien faire. Les espions se présentent, elle les reçoit. Il lui donne un gage de salut, le cordon d'écarlate. Elle aurait pu dire, oui, oh, ça me paraît bien un peu. Quand même, comment pourront-ils discerner, comment pourront-ils savoir que c'est ma maison, je vais mettre le corps d'écarlate? Bon, enfin, elle le met, le corps d'écarlate. Tout ce que vous lui demandez, elle le met. Et la maison n'est pas tombée. Voilà la foi. La foi, c'est Dieu parle, et puis oui, la foi obéit, n'est-ce pas? On retrouve dans Hébreux 11, alors, c'est même texte, c'est même fait. Au verset 17, par la foi, Abraham, quand éprouvé, a offert Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique à l'égard duquel il avait dit en Isaac ne sera plus une semence, ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts, d'où aussi en figure il le reçut. Voilà, vu d'un autre côté, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la foi d'Abraham. Mais il a offert son fils. Il n'a pas seulement dit qu'il l'offrirait, il l'a offert. Et puis on trouve aussi, je crois, plus loin, Rahab, verset 31, hein, par la foi, Abraham, prostitué, ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru, mais ont reçu les esprits. Voilà la foi agissante. La foi agissante qui, donc, manifeste le cœur du croyant. C'était des hommes, des femmes de foi. Ils croyaient ce que l'Éternel disait. Et parce qu'ils croyaient, ils agissaient comme l'Éternel le voulait. C'est ce que représente, je pense, ces fruits, n'est-ce pas, cette grenade et cette clochette au bas de la robe. Un fruit d'une clochette, un fruit d'une clochette. Pas seulement la confession du nom du Seigneur, mais aussi l'obéissance au Seigneur. Car quand nous disons Seigneur, nous disons, nous employons un mot qui montre que nous appartenons au Seigneur. C'est le Seigneur des esclaves. Nous sommes sa propriété. Il a le droit de commander. Il a le droit de commander sur nos vies. Quand nous disons Seigneur Jésus, eh bien nous parlons de quelqu'un qui a le droit de nous commander. Et si nous sommes des témoins fidèles, eh bien nous obéissons. C'est l'obéissance, c'est tout. C'est là la foi, n'est-ce pas? Eh bien, cette huile précieuse qui a été répandue sur la barbe, sur le vêtement d'Aaron, ici, il est souligné que c'est ces frères unis ensemble qui sont comme l'huile précieuse. Ce témoignage qu'il porte est comme l'huile précieuse. Transposé dans notre position de l'Assemblée de Dieu, c'est cette liberté de l'esprit d'agir parce que les frères sont unis ensemble, demeurent unis ensemble. S'il y a division, s'il y a grève, le Saint-Esprit n'est plus cette liberté de porter les fruits, de faire entendre le son de la clochette, il n'a plus cette liberté, alors, eh bien, c'est une paralysie de l'Assemblée, c'est un sommeil qui va à une Assemblée, n'est-ce pas? Et les choses doivent être jugées pour que l'esprit retrouve cette pleine liberté. Alors, il y a témoignage. Témoignage extérieur, car on voyait Aaron avec l'huile qui coulait, n'est-ce pas? On trouvait ça dans le livre de l'Exode. Oui, sur sa tête. Et puis, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Le rafraîchissement. Nous savons bien que c'est rafraîchissant de vivre en assemblée et bien unis ensemble. C'est rafraîchissant pour nos cœurs et pour nos esprits, c'est certain. Et c'est comme la rosée du monde. Et puis c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bénédiction, vie pour l'éternité, c'est là. Là où les frères demeurent unis ensemble. Il y en a alors, il n'y en a que quelques-uns. Et même ici, dans ce texte, il est dit qu'il est agréable que des frères habitent ensemble. Même pas question de tous les frères. Sans doute, il n'y a que quelques-uns. Sur la terre, là, ça sent toujours comme ça. Toujours quelques-uns. Un résidu, toujours. Mais lorsque le Seigneur viendra, lorsqu'il enlèvera tous les siens, ils seront tous là, pas un manquera. Et ils seront tous là, unis ensemble, bien unis ensemble, demeurant bien unis ensemble autour de lui, n'est-ce pas? Et c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tous les croyants se trouveront là, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas. Les foules, les multitudes depuis la Pentecôte seront là ensemble autour du Seigneur comme assemblée. Et même avant la Pentecôte, tous les enfants de Dieu depuis le temps d'Adam, n'est-ce pas? Tous les enfants de Dieu seront là, ressuscités, glorifiant le Seigneur, dans des corps glorifiés.
La réunion n'ayant pas pu être enregistrée intégralement sur la cassette, des notes manuscrites ont été prises à l'occasion de cette réunion. Citation du psaume 134, verset 1er. Voici, bénissez l'Éternel, vous, tous les serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez durant les nuits dans la maison de l'Éternel. Citation de Lévitique, chapitre 6, versets 2 à 6. Ici la loi de l'Holocauste, c'est l'Holocauste. Il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit, jusqu'au matin. Et le feu de l'autel brûlera sur lui. Et le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, et mettra sur sa chair ses caleçons de lin, et il lèvera la cendre de l'Holocauste que le feu a consumée sur l'autel, et la mettra à côté de l'autel. Et il ôtera ses vêtements, et revêtira d'autres vêtements, et il emportera la cendre hors du camp en un lieu pur, et le feu qui est sur l'autel y brûlera. On ne le laissera pas s'éteindre, et le sacrificateur allumera du bois sur ce feu chaque matin, et y arrangera l'holocauste, et y fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, on ne le laissera pas s'éteindre. Citation d'Éphésiens 5, verset 8. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Côté de Dieu, il a allumé la lampe. De notre côté, est-ce que notre lampe brille? Citation d'Ésaïe 21, verset 11 et 12. Il me crie de Séhir, sentinelle, à quoi en est la nuit? Sentinelle, à quoi en est la nuit? La sentinelle dit, le matin vient, et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous. Revenez, venez. Citation de 2 Samuel 23, verset 4. Il sera comme la lumière du matin quand le soleil se lève, un matin sans nuages. Par sa clarté, l'herbe tendre germera de la terre après la pluie. Citation du psaume 134, verset 3. Que l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, te bénisse de Sion. Et la réunion se termine par le chant du cantique 139.